Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Après avoir évoqué les jardins dans leur diversité au cours des siècles, en France, dans le monde et dans notre région, après avoir donné une place toute particulière à la rose dont l'obtention et la culture ont fait un succès international de Lyon, tout naturellement, nous choisissons aujourd'hui d'aborder le parfum, témoin subtil des changements de notre société au cours des siècles. Bonjour Elisabeth, et pouvez-vous nous faire part de ce voyage ?
Bonjour Titane. Oui, mais il faut se replonger encore dans les civilisations antiques,
oui, mais
de
c'est
l'Égypte
toujours...
à la Grèce, parce que la rose et le parfum aussi ne sont pas très loin hein, en général. Mm-hmm. Les parfums n'existent pas dans ces sociétés, les parfums n'existent pas en tant que tels en fait. Fleurs, les plantes aromatiques et résines, ce sont d'abord des matières premières brutes qui sont vouées au culte des dieux. Et l'usage des substances odorantes s'intensifie progressivement et les supports évoluent rapidement. On va apprendre à faire des productions de vapeur, ce qu'on appelle les fumigations, fabriquer des huiles, des baumes, des crèmes, des liqueurs fermentées. Et riches et pauvres l'utilisent dans un effort pour s'approcher du divin. En fait, on est très tourné vers l'adoration de Dieu au pluriel. Le parfum exalte la beauté et la puissance des dieux. Il sublime le corps et le guérit de ses maux. Et comme on l'a précédemment... pour la rose, eh bien, le parfum va beaucoup, exacerber
les sens
au moment de la décadence de l'Empire romain et des orgies qui vont en découler.
Et si l'on commence avec le Moyen-Âge, parce que souvent on oublie, pour moi, le Moyen-Âge, il y a déjà le parfum, les fleurs ou les plantes que l'on met dans l'eau du bain, que l'on met à même le sol. J'imagine le Moyen-Âge important déjà.
Oui, le Moyen-Âge a beaucoup utilisé les plantes comme protection contre les épidémies et en particulier la peste. Donc vous avez raison, on les mettait au sol, on les mettait dans des pots, dans des onguents. Nous avions évoqué dans une précédente émission le corbeau qui était le médecin de la peste, qui avait ce grand bec plein d'une composition aromatique pour purifier l'air, parce que voilà, on pensait que les odeurs vaincraient la maladie. Pardon. Les bonnes odeurs, croit-on, désinfectent et protègent des épidémies. Les riches portent des boules à parfum rempli de musc, d'ambre ou de résine aromatique. L'usage du parfum accompagne la naissance d'un certain art de vivre. Les poètes chantent avec lyrisme la féminité. En dépit des mises en garde de l'Église, les galants et leurs belles savourent les plaisirs charnels dans la sensualité des bains parfumés.
Et donc, au Moyen-Âge, ce sont les croisés, comme vous l'avez expliqué précédemment, qui ramènent d'Orient les matières premières et les techniques du parfum.
Oui.
Et à la suite, dites-vous, les Chinois, les Arabes et les alchimistes d'Europe découvrent l'alcool éthylique et la distillation.
Oui, voilà, avec ce phénomène de la distillation... eh bien, le parfum va prendre vraiment toute son importance et on va le suivre au fil des siècles à travers la société. Et c'est très intéressant parce qu'on peut penser que le parfum, à cette époque en tout cas, le parfum était soit pour la protection contre des épidémies, soit, on pensait même pas tellement à les femmes ne pensaient pas tellement à s'en mettre sur elles-mêmes. C'était plus une question d'ambiance et de lutte contre les épidémies.
Mais à la Renaissance.
Ah voilà, à la Renaissance, reines et courtisanes se disputent les recettes des premiers chimistes italiens et découvrent les matières premières d'Asie et d'Amérique. Tout d'un coup, il va y avoir en Europe des parfums extrêmement forts qui nous viennent de l'Orient et d'ailleurs. Et c'est l'âge d'or du mécénat et de l'art succédant aux recettes alchimiques. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent, on commence à faire une sorte de cuisine avec des herbes, avec des racines, avec des choses. C'est une cuisine alchimique, on mélange ça pour trouver une odeur qui soit suffisamment forte pour soit soigner, soit un peu griser les gens, quoi. Vasco de Gama, Christophe Colomb, Magellan, les grands explorateurs ramènent de nouvelles matières premières d'Amérique et d'Inde. Alors le cacao, la vanille, le baume du Pérou, le tabac, le poivre, la girofle, la cardamone, tous autant de choses qu'on a aujourd'hui et qu'on met dans nos cuisines, mais qui à cette époque-là étaient denrées rares. Et surtout qui vont devenir des moyens d'échange entre marchandises et entre grands voyageurs. À la cour, grandes amoureuses et femmes de pouvoir rivalisent de secrets de beauté et de poison.
Ah, là commence.
Oui.
Ah, oui.
Et la grande dame qui avait son armoire à poison dans sa chambre, c'était Catherine de Médicis. Ah, elle avait des moyens assez radicaux pour mettre au pli ses ennemis.
Pour arriver à ce qu'elle voulait.
Voilà. Venus d'Espagne et surtout d'Italie avec les Médicis, des parfumeurs étrangers s'installent à Paris et les gants parfumés envahissent la France.
C'est super ça, on devrait remettre au goût du
voilà.
jour, et gantés.
Voilà.
C'est bien, parce qu'il y a le baise-main aussi. Alors
oui.
Si on a les gants parfumés.
Et c'est, voilà, le parfum commence à venir sur la personne par le gant. Et alors, l'époque classique, dans les années 1600-1700, c'est Versailles qui s'enivre de parfums. Mais alors, Versailles, c'est tout un poème, parce que Versailles est réputé comme être la cour parfumée, mais parfumée par défaut de propreté et de sanitaire, quoi, parce que les gens, effectivement, ne se lavaient pas, ils se poudraient, ils se parfumaient, mais ils n'avaient pas de toilette, donc on se libérait dans des alcôves parallèles, donc les gens étaient malodorants, les lieux étaient
également
malodorants. Et donc, là, vraiment, le parfum avait toute son utilité, mais au point même d'en être écœurant, quoi.
Et est-ce à cette époque-là aussi que, justement, se laver n'était pas bon du tout? Parce que, disait-il, on enlevait à la peau la substance qui pouvait protéger des
oui.
maladies. C'est de
oui,
là
oui,
qu'ils arrivent à avoir une telle malpropreté sur eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Les gens se méfiaient. Si quelqu'un était de la haute société, bien sûr, était surpris en train de prendre un bain, on lui disait, mais Cire, ne sortez pas pendant 15 jours ou 3 semaines, quoi. Vous êtes, c'est comme si la personne était devenue tout à fait, avait du mal à se défendre contre l'agression des microbes.
Oui, parce que vous dites qu'en 4 ans, le roi soleil n'a pris qu'un seul bain.
Oui.
Hein, moi, je connais des petits-enfants qui seraient heureux de ce privilège.
Oui, oui, voilà, c'était vraiment... Non, la cour de Versailles n'était vraiment pas un lieu où l'on... Où se tenait la propreté, quoi. Soit dans les lieux, soit chez les personnes. Mais le Parlement autorise les maîtres gantiers à prendre le titre de parfumeur, puis de poudrier. Oui, il y a de la poudre aussi, vous savez,
oui, ils étaient tout blancs. Blanc.
Et à ce moment-là, Montpellier et Grasse se disputent la culture des herbes médicinales et des fleurs, œillets, violettes, lavande, jasmin, rose et tubéreuse. C'est intéressant parce que Montpellier a été une des deux villes françaises à soigner par les plantes. La troisième était italienne, Salerne. Et c'est ce soin par les plantes et du coup aussi créatrice de parfums, donc c'est intéressant. Montpellier-Grasse dispute la culture des herbes médicinales et de toutes ses fleurs. Et ça restera avec Lyon, Montpellier, Salerne, trois villes très très tournées vers les plantes, que ce soit dans la douceur ou dans le médicinal. Alors, dans les années 1700-1789, au siècle des Lumières, la femme suit avec préciosité les codes de la séduction et découvre la tyrannie de la mode.
Déjà.
Oui, parce que à la cour de Louis XVI, une femme n'ait jamais le même parfum, change de parfum chaque jour. Ça faisait partie aussi des codes qui avaient certainement d'ailleurs été mis en place même un peu avant dans la cour précédente. Mais on était, on commençait à mettre un diktat. Et donc, du coup, il fallait avoir une variété de parfums chez soi. Et on utilise aussi des vinaigres de toilette pour faire parfois office de parfum. Insouciance et fête galante, Marie-Antoinette folâtre. Elle folâtre dans son petit hameau au fond du parc de Versailles. La publicité relaie les canons de l'élégance féminine qui sont suivis à la lettre. On redécouvre l'hygiène et les goûts olfactifs évoluent vers des parfums plus subtils qui font la fortune des premières grandes maisons parisiennes. Donc, les chimistes de Grasse prospèrent, ils améliorent les techniques d'enfleurage et de distillation. Et à Cologne, Jean-Antoine Farina invente
l'eau de Cologne.
Et voilà.
Qui continue toujours et qui est très important. Est-ce que c'est la cour de Louis XIV ou Louis XVI?
Alors, c'est la cour de Louis XIV,
mais qui va jusqu'à
Marie-Antoinette.
On arrive à Louis XVI.
Oui, oui,
d'accord.
Voilà. Les deux cours, c'est logique parce qu'il n'y avait que ces gens-là qui pouvaient, d'abord pour obéir aux diktats des courtisans et qui pouvaient se doter de tant de parfums, d'acheter tant de types de parfums différents. On arrive à l'époque napoléonienne et l'odeur de la poudre à canon se répand bien sûr avec la Révolution française.
Oui. Mm-hmm. 1789.
Alors, voilà, 1789, là les parfums sont bannis. Ils reviennent en Grasse avec le consulat et l'Empire parce que Joséphine, d'une part, avait sa roseraie.
Oui, c'est vrai.
Et d'autre part, elle dépense des fortunes en senteurs exotiques et Napoléon abuse des frictions de l'eau de Cologne. Voilà. Donc, Les hygiénistes anglais relancent le goût des bains parfumés et à l'époque romantique, les femmes délaissent les fards et les parfums violents. On revient à quelque chose, puisqu'on n'avait plus à cacher des odeurs elles-mêmes très fortes, oui. Eh bien on revient à quelque chose d'un peu plus doux. Et le teint pâle, elle s'abandonne aux longueurs, un mouchoir délicatement parfumé. Donc, nous passons du gant au mouchoir. C'est assez intéressant.
Lecteur, as-tu quelquefois respiré avec ivresse et lente gourmandise ? Sens qui remplit une église d'un sachet musque invétéré. Charme profond, magique, non gris, en le présent, le passé. Corps adoré, du souvenir cueille la fleur exquise, de ses cheveux élastiques et lourds, vivant sachet encensoir de l'alcool. Une senteur montait sauvage et faux, et des habits mousseline ou velours tout imprégnés de sa jeunesse pure. Dégageait un parfum de fourrure.
Couleur FM 97.1, suivez le guide avec Elisabeth Boivin, le parfum témoin subtil d'une société en évolution. Le parfum se trouve partout, dans l'église avec son encens, dans les cheveux, le corps. Et Léo Ferré chante Baudelaire et les fleurs du mal dans tout spécialement le poème « Le parfum ». Sous une forme ou sous une autre, les parfums répandent leurs effluves odorantes, voire ensorcelantes, au plus près des femmes et, Elisabeth, et des hommes. On arrive en 1860-1900.
Oui, voilà. À la fin du 19e siècle, s'organise autour des femmes de la bourgeoisie le commerce et l'industrie des parfums. C'est la naissance des premiers produits de synthèse. Et après un engouement assez bref d'ailleurs, mais excessif, pour le vétiver et le patchouli, sous le Second Empire, bon, c'était deux essences bien pratiquées à l'époque. La deuxième partie du 19e siècle est marquée par le triomphe de la bourgeoisie et la naissance d'un goût olfactif un peu plus fin. Le commerce de luxe fleurit et la parfumerie se définit peu à peu comme un art. Donc là, on arrive à un degré un peu supérieur où la parfumerie est considérée pour elle-même. Courmarine, fève, qui est issue de la fève tonka, héliotropine, essence de sassafras, vanilline et premiers aldéhydes, c'est-à-dire des produits chimiques. La chimie de synthèse et ses notes inédites provoquent une révolution olfactive et c'est la naissance de la parfumerie moderne. Et à cette époque-là, se crée l'usine Fragonard. On retrouve des noms de parfums, en tout cas de parfumerie, qui maintenant nous sont plus familiers. À la belle époque, les années 1900, le parfum devient un produit de luxe. Il a un nom et un flacon. Avant, on donnait les noms des fleurs, on le nommait pas en fait, on donnait la composition. Mais là, maintenant, à partir de 1900, on a vraiment un produit qui a sa personnalité avec un nom et un flacon. Au même titre que la rose a été baptisée avec des noms, comme on l'a vu, des noms de gens de la noblesse, mais aujourd'hui, des vedettes ont des noms donnent leur nom de rose, et voilà.
Édith Piaf.
Voilà, Claudia Cardinal, Sonia Riquel, enfin voilà. C'est la belle époque, l'art nouveau déclenche l'enthousiasme, côté parfum, côté.
Ah oui, voilà, il arrive.
Voilà, créateur d'avant-garde, conjugue ses talents avec ceux de Lalique. Lalique, qui a été d'abord un bijoutier, ensuite un fabricant de flacons en verre moulé. C'est très, très beau. Je conseille à tout le monde d'aller voir le musée Lalique, à peu près à 40 km au-dessus de Strasbourg. C'est fabuleux, en pleine forêt, c'est magnifique. Et Lalique fait du parfum véritable produit de luxe. Le parfum lui-même et son emballage, son contenant plutôt, son contenant. L'un et l'autre conjuguent leur à l'art pour un produit de luxe. Côté mode, adieu aux faux culs. Effectivement, les faux culs, c'était peu ces vertus gadins qui faisait des fausses fesses aux femmes, voilà, pour une robe relevée à l'arrière. Et le couturier Poiret réinvente la silhouette de la femme beaucoup plus fluide, dans des vêtements beaucoup plus fluides et beaucoup plus saillants.
Tout cela, c'est une véritable révolution.
Oui, on sent que les choses bougent vraiment. Oui. Mmh. Les années 1920-1930, c'est de l'émancipation et de la nouveauté. La femme un petit peu garçonne des années folles qui s'émancipait trouve dans les parfums aux aldéhydes une fraîcheur inédite. Toutes ces compositions plus chimiques maintenant créent de nouvelles senteurs. Et dans les années d'extravagance, les femmes travaillent et s'émancipent. L'esprit aussi est à la légèreté. Et tout cela amène un nouveau souffle qui donne fraîcheur et dynamisme au parfum. L'euphorie s'éteint malheureusement lors du krach de 29, le krach financier des années 30. Et à cette époque, dans cette année, les années 1920-1930, apparaissent les parfumeries Rocha et Lanvin, les parfumeurs Rocha et Lanvin. Ah, les années 1930-1950 sont intéressantes parce que la haute couture et le parfum s'associent après-guerre.
D'accord.
Ensemble, ils composent pour la femme un modèle de séduction assez inspiré d'Hollywood d'ailleurs. Les couturiers Christian Dior imposent des fragrances de caractère. Donc à chacun son style, on porte un parfum de haute couture pour se singulariser. C'est, voilà, l'alliance de la haute couture, les grands couturiers vont vouloir doter leur modèle unique de parfums aussi très caractéristiques qui leur ressemblent. Voilà. Les années 50-70, là, ce sont des années où le parfum se démocratise. C'est la naissance des eaux de toilette masculines et du parfum américain. D'accord. Donc, on n'est pas au parfum masculin, on n'est pas au parfum pour homme, on est à l'eau de toilette masculine. Donc, on va arriver, l'homme va adopter le parfum en deux temps. D'abord, dans une eau de toilette, donc plus près de la phase rasage, si je puis dire, et ensuite, il viendra au parfum lui-même.
Il y avait l'eau de Cologne, elle est toujours là.
Ah, elle est toujours là, l'eau de Cologne. Oui, elle est toujours là. Peut-être pour des personnes qui n'en sont pas à vouloir vraiment, enfin juste prendre soin de leur peau après le rasage, quoi. Oui, mais voilà, sans pour autant vouloir se singulariser complètement. Donc, on est quand même dans une époque où on rêve d'Amérique. On rêve d'Amérique. Le prêt-à-porter supplante la confection. Les parfums sont aussi plus accessibles. Ils se démocratisent et dispensent des odeurs sages et plus faciles. C'est la naissance des eaux de toilette masculines, vétiver, lavande signe une élégance discrète et reste attachée au rituel du rasage. Là apparaît la marque Estée Lauder, lance son premier parfum.
Alors, sans micro, parce que c'est le parfum que j'ai mis tout à l'heure. Voilà.
Les années 70 et 1980, pour le parfum, l'important est le message qu'il délivre. En France comme aux États-Unis, naissent les parfums concepts qui séduisent une femme tour à tour sophistiquée. Est-ce que je vais mettre un parfum capiteux parce que ce soir je sors? Ou une femme naturelle, romantique, quelque chose...
Fruité, voilà.
Ou si je vais faire du sport, qu'est-ce que je vais mettre après? Enfin, voilà. On est en train de travailler le concept. On affine de plus en plus. Et après les eaux de toilette, de véritables parfums masculins font leur entrée sur le marché. L'homme dissocie parfum et après rasage.
Ça vient assez tard pour l'homme. Finalement,
oui.
Le parfum lui-même.
C'était quand même le parfum à travers les âges a quand même commencé par la femme et voilà, c'était un élément de séduction de la femme et progressivement ça l'est devenu pour l'homme. Les années 80-90 sont des années de sensations fortes. Le mur de Berlin entraîne la chute des idéologies qu'il délimitait. Hommes et femmes sont au coude à coude dans la réussite individuelle. Fragrance puissante, conquérante. On cherche dans le parfum l'énergie qu'on va mettre à réussir dans sa vie. Et venu des États-Unis, les notes fruitées renouvellent la parfumerie pour les hommes et les femmes. Les années 2000, 1990-2000, après une période matérialiste, les hommes et les femmes aspirent à un monde plus pur, inspiré par la recherche d'une nouvelle fraîcheur. Il y a eu la période cocooning, New Age, certains parfums rassurent avec des notes persistantes d'enfance. Et ils allient en douceur le goût et l'odeur. On marie le goût et l'odeur. Ça, c'est important. Ça donne lieu à nouveaux parfums qui sont, je ne veux pas dire entre sirop et parfum, mais enfin qui sont parfois très, très... douces rues comme la vanille, le caramel, le lait, c'est des parfums qu'on imagine plus à manger qu'à respirer. L'homme s'ouvre au monde des émotions, il se parfume pour séduire. Parfums marins, aquatiques, végétaux, plus naturels pour retourner à l'essentiel, la terre, le feu, l'eau, le vent. Et on a là qui se place bien le parfumeur Calvin Klein. Enfin, nous allons terminer par les années 2000, après la quête de simplicité, de transparence et de pureté des années 90. Le 21e siècle affiche un retour au besoin d'entreprendre, d'être maître de son destin. Alors, start-up, alors on vit dans un monde qui est complètement élargi à travers des inventions comme Internet. Donc, start-up, univers urbain réhabilité, Flower by Kenzo, la nature fait incursion dans la ville. Ah, le 11 septembre et la guerre d'Irak crée un électrochoc. La priorité est désormais au plaisir immédiat. Les orientaux gourmands suivent leur success story initié par Angel. Ça, c'est un parfum qui était très, très capiteux. Et après cette période torride, une transition s'opère vers un retour à l'émotion et à l'authenticité. Et là, c'est très intéressant. De nouvelles valeurs émergent comme l'écologie, le développement durable, des problématiques fédératrices qui génèrent l'apparition des éco-citoyens. Dans le même temps, les liens communautaires se renforcent. Internet est plus que jamais qualifiable de village planétaire avec l'apparition massive de blogs et autres réseaux comme Facebook. Et une ouverture évidente qui se traduit par des codes olfactifs moins cloisonnés. La parfumerie masculine explore une sensualité intense, orientale et florale. Et alors là, on arrive à un type de parfumerie qui est particulier. La parfumerie de niche propose des fragrances mixtes, déconnectées des diktats marketing. Et pour satisfaire un besoin croissant de se différencier de la collectivité, le parfum joue les séries limitées, millémisées, exclusives, un peu comme le vin, quoi. On est dans un produit extrêmement cloisonné, et même le sur-mesure, c'est-à-dire j'achète les ingrédients pour les constituants, les ingrédients pour me faire mon parfum qui ne ressemblera qu'à moi, parce que c'est moi qui l'aurais fait.
Comme nous devons nous quitter, on peut juste citer qu'il y a un magasin de produits pour fabriquer son propre parfum à Lyon, à la place de la République.
Et puis le Musée international de Grasse, qui est vraiment l'endroit où l'on peut voir, rencontrer un nez, c'est-à-dire quelqu'un qui choisit les parfums, et voilà, et voir comment ils se fabriquent.
Merci beaucoup Elisabeth pour cette promenade parfumée. Merci Laurent et à la prochaine. À bientôt.
Au revoir Titane.
Au revoir Elisabeth.